Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Deux sagas ce matin. Tout d'abord les Schtroumpfs, ils ont 60 ans et leur incroyable aventure fait l'objet d'une exposition à Paris. On schtroumpfe tout ça dans un instant avec le grand schtroumpf Arnaud Mulpa. Autre saga à l'honneur, Game of Thrones. Les décors, les costumes, les accessoires de la série sont exposés porte de Versailles. Nous suivons notre guide Laurent Marcy qui est rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons avec Laurent des passes famille pour aller admirer le trône de fer. Mais oui, nous vous emmènerons avec Bernard Lehu dans les coulisses du premier prix Jean d'Ormesson qui a été décerné hier. Nous n'oublierons pas nos express du jour avec Olivia Leray et on jettera un coup d'œil à nos programmes télé avec Isabelle Maury-Libos.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Un peu pour démarrer avec vous Arnaud Mulpa, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les Schtroumpfs fêtent cette année leurs 60 ans et pour l'occasion une belle exposition retrace à Paris au centre Wallonie-Bruxelles l'incroyable aventure de ces petits hommes bleus et de leur créateur Pillot.
Oui, inutile de faire les présentations, les Schtroumpfs, vous les connaissez forcément. Il y a votre préféré Yves, le Schtroumpf gourmand.
Tu peux me dire ce qu'il y a pour dîner? Je marque d'un Schtroumpf.
Il a toujours faim. Des épinards, des feuilles de laitue, des herbes de blé et de l'eau.
C'est pas bon, frère.
Voilà, j'aurais pu vous parler aussi du Schtroumpf farceur.
Hey, j'ai un petit cadeau pour toi.
Ou même du très énervant Schtroumpf à lunettes.
Le grand Schtroumpf dit qu'il faut toujours avoir un esprit Schtroumpf dans un corps Schtroumpf, voilà. Parce que sinon, on est Schtroumpf.
Ce que nous rappelle cette exposition, c'est que ces lutins, désormais mondialement célèbres, devaient avoir une existence très éphémère. Nous sommes en 1958, Pillot a alors 30 ans, il est l'auteur de la série à succès Joanne et Pierre-Louis. Et pour son 9e album, il invente une histoire autour d'une flûte enchantée. Et la suite, c'est Hugues Daillez, un des commissaires de l'exposition, qui la raconte.
Les gens qui subissent le son de la flûte dansent la danse de Saint-Guy jusqu'à épuisement. Alors, il se dit, qui va créer cette flûte? Au lieu d'imaginer un vieil enchanteur à longue barbe, ça va être une communauté de petits lutins qui ne sont pas humains, qui auront donc une peau de couleur non humaine. Sa femme, Nine, par élimination, tombe sur le bleu. En disant, le bleu, ça se détachera bien dans le vert des feuillages, puisqu'au départ les Schtroumpfs sont tout le temps cachés dans les feuillages. Et comme ils publient dans Spirou, on voit bien par le courrier des lecteurs que ça fonctionne. Lorsque ça paraît en album, la flûte à six trous devient la flûte à six Schtroumpfs. Et puis il va se rendre compte que l'album marche mieux que les autres. Et puis et voilà, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un happy accident.
Voilà, vous verrez dans cette exposition, parmi les dizaines de planches originales présentées, la toute première, donc celle dans laquelle les Schtroumpfs apparaissent. Ils ont le bonnet un peu plus pointu que celui qu'on leur connaît désormais, mais il y a déjà le grand Schtroumpf et les champignons qui plus tard leur serviront de maison.
Ils sont un peu plus pointus du bonnet. Alors j'ai bien compris que la couleur bleue s'était imposée très vite pour distinguer les Schtroumpfs des feuillages dans lesquels ils vivent, mais pourquoi ce nom de Schtroumpf?
Ils auraient pu s'appeler Truc ou Bidule, tous ces jouets rappellent Hugues Daillez un jour à table entre Pillot et Franquin, le père de Gaston Lagaffe.
Lors d'un repas avec Franquin, il ne trouve pas le mot salier. Au lieu de dire passe-moi le sel, il dit allez André, passe-moi le data, allez passe-moi le schtroumpf. Là. Et ça les a très fort amusés. Et lorsqu'il crée ce personnage et qu'il doit lui donner un nom, il a le souvenir de ce repas avec son ami. Et donc c'est à la fois la création graphique d'un petit personnage et la création d'un langage, puisque le schtroumpf parle schtroumpf, les verbes sont remplacés par schtroumpfé, les mots par schtroumpf.
Alors attention, ce n'est pas aussi simple qu'il paraît. Si absolument. Vous voulez parler schtroumpf, faites toujours attention au contexte. Pillot le rappelait souvent, si vous dites à votre voisine, mademoiselle, vous avez une jolie paire de schtroumpfs, pas sûr qu'elle comprenne tout de suite que vous parlez de ses boucles d'oreilles.
Bien sûr. Il faut juste avoir les... Je vous ai vu vous manipuler les schtroumpfs il y a quelques instants, mais voilà, c'est pour ça. Alors, il faut juste avoir l'esprit bien tourné, l'exposition met aussi l'accent sur le succès mondial grâce aux dessins animés.
Oui, à partir de 1981, la NBC et les studios Hanna-Barbera à Hollywood vont produire avec Pillot 272 épisodes. Un travail de titan à une époque où les communications avec les États-Unis ne sont pas aussi simples qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, la BD passe clairement au second plan. C'est dans les dessins animés que les nouveaux personnages se créent. Et Pillot, qui est un perfectionniste, va y laisser une partie de son énergie. C'est ce que m'a raconté son fils Thierry Culliford.
Il a participé, ça, donc ça lui est arrivé comme un tsunami. C'est pas comme un businessman qui programme et qui dit on va attaquer le marché américain, donc dans les deux ans on se structure. Lui, tout est arrivé comme ça et pas délégué parce qu'il voit pas pourquoi il faudrait déléguer. Et quand il se rend compte qu'il faut déléguer, c'est trop tard. Ça l'a vraiment bouffé. Oui. Les 10 dernières années de sa vie, qui sont celles où le Schtroumpf a connu le sommet de sa popularité dans le monde entier, je ne suis pas sûr qu'il en ait vraiment profité. Souvent, il s'est trouvé un peu largué dans tout ça.
Au début des années 90, Peyo était revenu à la bande dessinée. Vous verrez dans l'exposition le découpage méticuleux réalisé pour son dernier album, le Schtroumpf financier. Il avait hésité, m'a raconté son fils, avec le Schtroumpf docteur. Ah. Parce qu'à la fin de sa vie, les seules personnes qu'il côtoyait étaient soit des hommes d'affaires, soit des médecins pour ses problèmes de santé. C'est une expo vraiment schtroumpfante et finalement un peu émouvante que je vous recommande. C'est donc jusqu'au 28 octobre au centre Wallonie-Bruxelles et ça se trouve juste en face du centre Pompidou à Paris.
Ça vous fait rire, hein. Il ne peut pas s'empêcher de repasser celui-là. Merci beaucoup Arnaud Mulpa pour ce moment de bonheur avec nos amis les Schtroumpfs. On va s'intéresser à la Schtroumpfette rouge, en l'occurrence Isabelle Morini-Bosse, qui est en train de gentiment détailler pour nous les chiffres d'audience d'hier soir avec nos camarades de Médiamétrie. Je crois que je ne peux pas en faire plus.
Média Schtroumpf. C'est parfait. Voilà. Plus ça serait trop. Eh bien, Grey's Anatomy est en tête, 4 100 000 téléspectateurs, mais à peine une poignée de fidèles de plus que Maman a tort sur la 2, qui termine donc avec un très bon 4 millions de téléspectateurs. Quasiment, c'est bien, 17% du public sur la 2 et en troisième position des Racines et des Ailes. 2 500 000 personnes étaient devant le Tarn et l'Aveyron et 11% du public. Et alors côté TNT, c'est TMC qui n'avait pas hier soir la concurrence de Strike en face et qui du coup remonte nettement en audience, près d'1 450 000 téléspectateurs. C'est très fort.
Merci Isabelle. Si vous aimez par exemple Bradley Cooper et Lady Gaga, moi j'aime beaucoup les deux, restez avec nous parce qu'on va en parler avec Olivia Leray dans ses Express. Elle nous le conseille.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi, les Express LVT.
On retrouve nos Express avec Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
La bande-annonce de A Star Is Born avec Lady Gaga est arrivée.
Pour son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper a choisi Lady Gaga, sans maquillage ni artifice. Les deux acteurs, comme vous l'entendez, chantent sur cette bande originale. Le long métrage, un classique du cinéma américain, raconte l'histoire d'un acteur alcoolique qui décide d'aider une jeune artiste à devenir célèbre. Sortie prévue en octobre 2018.
Une étoile est née.
Exactement. Calogero va retrouver l'Olympia alors qu'il jouait encore hier son Liberté Chérie Tour à guichet fermé, s'il vous plaît, à l'Accor Hotel Arena. Eh bien, l'artiste investit l'Olympia pour 5 soirée, ce sera du 20 au 24 janvier 2019. Mise en vente des places tout à l'heure à 10h.
Une nouvelle salle de spectacle va ouvrir à Paris le 11 septembre prochain.
La Scala Paris. Alors théâtre, musique, art du cirque, art visuel, tous les arts seront représentés. Et cette salle a un historique, ancien café-concert, puis cinéma, art déco, puis multiplex porno. Elle a été rachetée en 99 par une église brésilienne, mais ce projet n'a jamais vu le jour. Et il y a 2 ans, Mélanie et Frédéric Biessy reprennent la Scala. Sophie Orange les a rencontrés.
Ce sera un théâtre, une salle de concert, une salle de danse, une salle d'exposition. Ça sera tout en même temps, parce que c'est notre ADN. Et c'est pour ces artistes qu'on a construit cette maison, et c'est eux qui ont construit cette maison avec nous. C'est-à-dire qu'il y a 11 configurations possibles, on peut tout faire. Et puis on a une acoustique variable, avec l'aide de ces 220 panneaux et de ces plus de 100 haut-parleurs, d'avoir des ambiances de cathédrale ou de studio d'enregistrement. C'est une boîte à jouer pure.
Et ce qui nous touche aussi, c'est que ce lieu, il est ancré dans un quartier qui est magnifique, puisqu'il y a plus de 120 nationalités. Il doit vivre dans le théâtre et le théâtre doit vivre dans le quartier.
Alors vous pouvez réserver vos places dès aujourd'hui pour les tout premiers spectacles qui commencent donc en septembre.
Exactement.
Hein. RMC Découverte a annoncé hier l'arrivée d'un nouveau jeu, Escape. 21 jours, adapté d'un format britannique.
Et la ressemblance avec le film d'Yves Boisset, Le Prix du Danger, est frappante. Un candidat d'une émission de télé-réalité doit échapper à de vrais tueurs, évidemment, dans Escape 21 jours. Il n'y a pas de tueur, le principe. Des candidats doivent totalement disparaître dans la nature. Ils sont poursuivis par 2 anciens policiers du RAID et une psychocriminologue. Entre autres, la chasse à l'homme est ouverte dans toute la France. Ils n'ont pas le droit de sortir du territoire. Il n'y a rien à gagner et l'émission arrive à la rentrée.
Ça a été tourné, hein. C'est déjà en boîte.
Ah oui, c'est en boîte.
Et puis un tout petit mot pour vous dire que Livre d'images de Jean-Luc Godard, Palme d'Or spécial à Cannes le mois dernier, sera diffusé sur Arte à la rentrée.
Merci beaucoup Olivia Leray. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Hier soir, vous avez assisté au Centre National du Livre à la remise du premier prix Jean d'Ormesson, 6 mois, quasiment jour pour jour, après la mort de l'académicien survenu le 5 décembre dernier.
Oui, un prix créé à l'initiative de son épouse Françoise, de sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson, de sa petite-fille Marie-Sara et de ses amis les plus proches, 12 jurés au total, dont plusieurs de ses confrères de l'Académie, Éric Orsenna, Jean-Marie Rouard ou Dany Laferrière. Ils ont voulu un prix qui ressemble à Jean d'Ormesson, une fête de la lecture, sans se laisser entraver par un genre, une langue et même une époque. Et c'est sous un portrait géant de son père qu'Héloïse d'Ormesson a pris la parole paroles non sans émotion.
Papa, tu affirmais, tant qu'il y aura des livres, des gens pour les écrire, des gens pour les lire, tout ne sera pas perdu dans ce monde. Entends-nous, nous nous sommes efforcés de poursuivre ton action et de célébrer la lecture. Nous avons eu à cœur de sortir de l'oubli une pépite injustement oubliée. Et je sais que tu es là parmi nous, puisqu'invisible n'est pas absent, pour ce moment de fête, d'amitié et de partage.
Invisible, invisible n'est pas absent, rappelait sa fille en évoquant Jean d'Ormesson, une conviction partagée hier soir par Éric Orsenna.
Il est là et le bonheur qu'il nous a donné est là. Parce que le bonheur qu'il nous a transmis, la leçon de bonheur, la leçon joyeuse de bonheur qu'il nous a transmise, c'était sans arrêt de faire cadeau de livres. Il nous a cadeau de son sourire, de faire cadeau de ses histoires, de son espièglerie, de sa liberté. Mais il nous donnait combien de fois le plus beau des cadeaux. Et vous savez, quand on a un ami ou une amie, qu'est-ce qu'on peut lui faire de mieux comme cadeau ? Un livre. Parce que c'est le cadeau de tous les cadeaux.
Alors, quel livre a été récompensé par ce premier prix Jean d'Ormesson, Bernard ?
Eh bien, fidèle à l'esprit de ce nouveau rendez-vous littéraire, les amis de l'académicien ont choisi un roman paru en 1959, L'espace d'un ciment, injustement oublié, comme l'a souligné Héloïse d'Ormesson, un roman de langue française écrit par un haïtien, Jacques-Stéphane Alexis, écrivain donc, mais aussi opposant au dictateur François Duvalier, torturé et assassiné à 39 ans, un maître pour l'académicien, lui aussi d'origine haïtienne, Daniel Ferrière.
Il était médecin et il a fondé un parti communiste, le parti d'entente populaire, donc c'était à l'époque aussi, un grand ami d'Aragon, et il a écrit et publié 4 romans, et c'est un orfèvre de l'écriture, et il a écrit ce roman magnifique, L'espace d'un ciment, qui a l'histoire qui se passe dans un bordel, et en banlieue de Port-au-Prince, avec une petite prostituée qui s'appelle la petite étoile, la Niña Estrelita, et son amoureux, celui qui deviendra son amant, El Caucho. Et c'est une histoire d'amour terrible, parce que ça se passe dans un bordel où les corps sont meurtris, mais c'est aussi une histoire magique aussi, et puisque ça remonte jusqu'à l'enfance.
L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis, édité dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Premier prix, donc, Jean d'Ormesson. Un bon livre ne meurt jamais. Et la fête était très réussie. Jean d'Ormesson, là où il est désormais, a dû trouver ça hier soir. Épatant.
Merci beaucoup, Bernard Lehu. On va parler de l'exposition Game of Thrones maintenant, qui vient d'ouvrir à Paris, porte de Versailles. Game of Thrones, c'est une série télé américaine qui est un phénomène absolument mondialisé. Bonjour, Laurent Marsic.
Bonjour.
Pour les non-spécialistes, ça parle de quoi, Game of Thrones ?
Eh bien, c'est la série de tous les superlatifs. C'est de la fantaisie adaptée d'une série de romans de l'écrivain américain de science-fiction George R.R. Martin, diffusée chez nous sur OCS, la chaîne cinéma et série d'Orange. Nous sommes dans un pays imaginaire, époque chevalier et dragon, où cette famille convoite le pouvoir représenté par un trône de fer, un drame aux accents shakespeariens, le tout façon roi maudit, s'en sont inspirés d'ailleurs.
Pourquoi dit-on que c'est la série de tous les superlatifs ?
Bah pour sa production, un épisode coûte 10 millions de dollars, il en rapporte 1 milliard, bourré d'effets spéciaux, tournage aux quatre coins du monde, parfois en simultané. Dans l'ultime saison, la 8e à venir, ils se sont même offert le luxe de tourner pendant 55 jours consécutifs une scène de bataille dans des conditions extrêmes de froid, de neige, de boue. Nous voici dans cette expo Game of Thrones, porte de Versailles à Paris. Nous retrouvons devant son costume exposé le jeune acteur Isaac Hempstead Wright. Il est Brandon Stark dans la série. Il a des visions, c'est un des personnages principaux. Et il a un souvenir particulier des tournages.
Le souvenir principal, au niveau de la difficulté, c'est le froid. On a eu beaucoup de tournages où il faisait extrêmement froid. On était là debout dans la boue à attendre. Alors on avait des très belles bottes italiennes en cuir, mais absolument pas étanches. Donc voilà, ça c'était vraiment la difficulté, mais c'est quelque chose qu'on surmonte facilement parce que le tournage était extraordinaire. Il y a un sentiment de camaraderie qui était vraiment, vraiment merveilleux.
C'est le problème de la botte italienne.
C'est bien évidemment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et quand je vois ce costume, ça me rappelle plein de souvenirs. Je l'ai mis je ne sais pas combien de fois. Ça me prenait énormément de temps à le mettre. Il fallait que je ferme la ceinture. Il y a plein de couches de vêtements, etc. Donc je suis assez content d'ailleurs de ne pas avoir à le porter hein, parce que ça prend vraiment énormément de temps à mettre. C'est quelque chose qui a représenté énormément de choses. C'est un costume que je mets depuis que j'ai 12 ans.
Et sur son costume, on voit même encore les taches de sueur. Dans chaque salle, vous pouvez vous prendre en photo dans les décors et envoyer ça sur les réseaux sociaux. C'est très malin, vous devenez le publicitaire de l'expo. Une autre salle, voilà des marcheurs blancs, sorte de morts-vivants qui, dans l'avant-dernière saison, s'apprêtaient à envahir le monde.
J'ai vu des choses que vous ne sauriez imaginer. Et ça doit être la première chose qui me terrifie à ce point.
Je suppose que tout est poussé à l'extrême, y compris justement les costumes qu'on voit dans cette expo.
Exactement, des détails qu'on ne voyait pas forcément à l'écran, ou les astuces pour d'autres. Par exemple, dans la série, vous avez des hommes qui gardent un mur au nord du pays. Entre pays des morts vivants venus du froid et les humains, ils ont des manteaux de fourrure constitués en fait de morceaux de tapis Ikea qui ont été rebrossés. La production de l'expo a aussi créé un univers olfactif. Ici, un crâne de dragon et dans vos narines, soudain, une forte odeur de cendre. Robin Stipley est le designer de cette expo.
On a différentes zones et ce n'est pas partout, mais par exemple, dans la salle du dragon, on a une odeur de brûlé, comme s'il y avait eu un incendie. Ce n'est pas trop fort quand même, on veut juste que les visiteurs arrivent et se disent « Je me demande ce que c'est ». C'est un effet assez subtil.
Un parcours à faire avec des yeux d'enfant, 10 décors de la série recréés. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur RTL.fr avec une visite en vidéo et toutes les interviews des acteurs.
L'expo Game of Thrones est à découvrir. Porte de Versailles à Paris jusqu'au 2 septembre 2018. Et ce matin, nous vous faisons gagner des passes famille pour 4 personnes. Pour cela, il faut répondre à la question très 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 difficile que vous pose Laurent.
Dans la série, les protagonistes luttent pour conquérir 1. Le trône de fer, 2. La baguette magique de la reine ou 3. Les dragons de Daenerys Targaryen. Je vais y arriver.
Ce qui est important, c'est qu'il ne s'occupe pas de la baguette magique du héros. Alors, réponse au 32-10.
RTL, laissez-vous tenter, 9h19.
C'est qui me ferait peur avec son Game of Thrones.
Mais non, je vous tiens la main.
Dans un instant, on va se rassurer avec Isabelle Morini-Bosque à la télévision.
Oh, pas sûr. Pas
sûr. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
On se raconte des histoires, excusez-nous, je ne devrais pas vous en parler d'ailleurs. Alors, programme chargé à la télévision ce soir, Isabelle Morini-Bosque, avec d'abord les fictions.
Oui, notamment Le juge est une femme, championne d'audience sur TF1. On fera le bilan jeudi prochain, ce sera la fin de la 16e saison. Vu qu'il faut signaler ce matin une autre fin, celle du polar de la 2, L'accident, avec Bruno Solo dans le rôle d'un mari dont l'épouse est morte dans l'accident de voiture qu'elle aurait provoqué. Un rôle très noir dont Bruno Solo vous avait parlé, Laurent, au Festival de la fiction de La Rochelle.
Bah oui, oui. C'est l'histoire d'un deuil. Et en plus, il doit prouver que sa femme était innocente. C'est l'histoire de la quête d'un homme qui essaie de rendre l'honneur perdu de sa femme. Non seulement elle est morte, évidemment, mais morte dans des conditions où elle a provoqué un autre accident. Elle a tué 2 personnes. Comme c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Donc tout le monde me reproche de ne pas avoir vu que ma femme était alcoolique, dangereuse. Donc on me reproche sa dépression, que je n'avais pas vue. Donc moi aussi, je me reproche des choses. Même ceux qu'ils croyaient être ses amis ont des choses à cacher. Tout ça va se révéler dans une ville qui est en train de crever. Et voilà. Donc oui, il y a quelque chose d'assez désespéré, mais comme dans tout. De bonne histoire qui se respecte, voilà, ça se termine relativement bien.
Heureusement. Sa femme a-t-elle fait un écart parce qu'elle était ivre ? Véritablement un écart de conduite.
Mais
donc,
alcoolo, non.
L'enquête progresse. Non, non, ah bon. Vous verrez. Oh, c'est ah très bon, bien fait. L'enquête progresse ce soir. La fin est très réussie. On ne reste justement pas sur sa fin.
Deux mots sur Philippe Etchebest.
Moi, je vous suis.
Il avait loupé la fin.
Je vous prie de m'excuser.
Attendez, on remet les piles.
Voilà, j'ai remis mes petites pipiles. Alors, deux mots sur Philippe Etchebest qui continue ce soir à sauver les restaurateurs en difficulté financière sur M6.
Oui,
et pas financière.
À leur demande, absolument. Oui. Direction ce soir, Le Canet en Roussillon, chez un restaurateur très attachant. Mais alors, j'ai jamais vu ça. Le restaurant tombe véritablement en ruine. Et là, il voit arriver le chef.
Ouh là là. Je crois que j'ai vu le chef sur le trottoir d'en face.
Bon.
Oh là là, excusez-moi, mais là, je peux pas. J'ai trop d'émotions. Je suis un monsieur sensible.
C'est très très fort.
J'en reviens pas. J'ai le cœur qui bat très vite. J'ai des larmes aux yeux. Il va enfin me guider.
Bonjour.
Je suis Alex.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une explosion.
Il y a eu une accumulation de problèmes.
Non, mais c'est un carnage dehors. Les vitres sont pétées, il y a des bouts de planches.
On parle de 70% de taux de réussite. Il paraît que c'est même davantage aujourd'hui. J'ai vérifié avec Philippe Etchebest.
Alors, depuis 2016, depuis qu'il y a la société de pilotage d'entreprise qui suit les candidats pendant 6 mois, c'est 84% de réussite.
Craché juré.
Ah oui, non, pas l'habitude de raconter des conneries. Vous me connaissez en plus, hein. Non, je ne suis pas un menteur. Cette entreprise donne des outils de gestion et de comptabilité très pointus. Et puis c'est pour eux, hein. C'est eux qui se battent. Je ne fais pas ça pour faire de la télé, moi je m'en fous. C'est vraiment dans l'objectif d'aider des gens, on est bien d'accord. Et de les amener à réussir, et ça porte ses fruits. Franchement, j'en suis très très fier. Moi je considère de toute façon que les restaurants encore ouverts 1 an et demi et 2 ans après mon passage, c'est déjà une réussite. Aujourd'hui, hein, la durée de vie d'un restaurant moyen, je crois que c'est 3-4 ans, hein. Pas plus, hein. Bien sûr. Ah ben ça ouvre, ça ferme.
Oui, j'ai vu 6 restaurants fermer. Par jour,
mais c'est clair, par jour. Et il y en a autant qui s'ouvrent. Hein.
Voilà, moi je trouve cette émission véritablement passionnante. C'est donc à 21h sur M6 et on termine par Envoyé spécial sur la 2. Envoyé spécial dont, franchement, les sujets sont actuellement passionnants et sont très mal payés en audience. Ça mérite franchement mieux. Ce soir, trois enquêtes instructives. Une sur les connectés sud-coréens qui traquent pervers et corrompus via les réseaux sociaux. Il y a une deuxième enquête sur nos décharges. C'est absolument sidérant. Et enfin, il y en a une troisième, dure mais nécessaire, qui commence, écoutez bien, par la visite du joueur de rugby Sébastien Bouey au centre de formation de football de l'OM.
Est-ce que vous savez pourquoi je suis là ?
Du tout.
Donc vous allez avoir une belle surprise. On va parler d'un sujet qui est encore tabou en France, c'est de la pédophilie en milieu sportif. Alors on va se détendre les gars, je suis un ancien sportif comme vous, hein, un ancien rugbyman, on va y aller sans filtre. Hein. Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans, en milieu familial. Je jouais de la musique dans une banda. C'était donc le mari de ma cousine. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui. Tous les vendredis soirs, avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents.
Mais vous n'avez pas essayé d'en parler à quelqu'un ?
Alors, non. Lui, il disait, si tu le dis, eh bien, je dis que t'es un PD. Il y a 20 ans de ça, l'homosexualité et le rugby, c'était pas du tout compatible. Heureusement, les mœurs ont changé, donc il verrouillait la parole comme ça.
Tu as jamais songé à le retrouver, à le bomber ?
Moi, j'aurais tué.
Ouais, mais après, c'est toi qui vas partir en tôle. J'ai pu en parler 18 ans après, et quand j'ai annoncé à ma cousine que son mec m'avait violé, elle m'a dit, je sais, je suis au courant.
Voilà. La suite dans Envoyé spécial ce soir sur la 2 et consacre désormais sa vie à la formation, si j'ose dire, des jeunes face à la pédophilie. Comment s'en protéger, ce qui n'est pas admissible. Votre corps est à vous. Il s'agit de 36 minutes d'enquête. Il n'y en a pas une inutile.
Sans commentaire, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce programme ce soir sur France 2. Nous sommes bien d'accord. Dans un instant, on se quitte et on accueille Julien Courbet.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
L'Expo Game of Thrones, c'est donc à Paris Expo, porte de Versailles jusqu'au 2 septembre 2018. Nous vous faisions gagner ce matin des passes famille pour 4 personnes, c'est un très joli cadeau. Mais pour cela, il fallait répondre à la question que vous a posée Laurent. Dans cette série, les protagonistes luttent pour conquérir 1. Le trône de fer, 2. La baguette magique de la reine ou 3. Les dragons de Daenerys Targaryen. Votre réponse ?
Le trône de fer, dans lequel vous pourrez d'ailleurs vous faire prendre en photo à la sortie de l'Expo.
Et ben voilà, il paraît que c'est vraiment formidable et que même les odeurs sont absolument perturbantes dans cette exposition.
Merci
à toute l'équipe. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien.
Et dans ce studio, c'est la même chose. Les
très perturbant. Vous voulez dire dans votre studio ?
Oui, dans le mien. Oui.
Il y a des problèmes d'hygiène dans l'équipe ?
Je ne sais pas, ou peut-être d'aération. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le problème.
Ça marche ensemble, non ?
Mais
ça sent
évidemment.
Dragon,
oui, la ménagerie, comme on dit chez moi. Bon, en tout cas, on est là. Ça ne nous empêchera pas de faire notre travail, sachez-le.
J'avais une autre image de cette belle équipe, dont l'hygiène morale et physique n'a jamais été remise en cause.
Bon, eh bien, on va enchaîner. Ben, voilà. Parce que là, je vois que Maître Félono se sent visée. Elle n'est pas contente du tout.
Ah non, en aucun cas. En tout cas, pas par moi.
Alors, Maître,
mais vous êtes abruti ce matin, je vous le dis tout de suite. Je suis furieuse.
Bonne journée, mon Yves.
Bonne journée.